Salut Patrick.
Salut Philippe.
Tu vas bien?
Bah écoute, pour moi c'est une journée un peu bizarre.
Importante.
Bah,
c'est vrai. Ce soir.
Ouais,
hein.
ça fait un petit moment qu'on bosse sur l'émission là ensemble. Enfin surtout moi parce que là c'est plutôt moi qui va parler ce
je
soir.
Je suis un peu désolé.
Et on va parler d'un groupe qui est pour toi culte. Qui est culte, qui j'espère que pour tout le monde est culte. Et autrement si c'est pas le cas après l'émission, je suis certain que vous trouverez que ce groupe a un gros potentiel.
Et ben en tout cas on va le découvrir.
Et à l'inverse des Clash, mon petit père de la semaine dernière. C'est un groupe qui est toujours vivant.
Ouais, c'est vrai. Là, tu me fais du mal. Donc, on va commencer effectivement par une date. Ouais. Une date, le 11 septembre 1974.
Voilà.
Alors, ce qu'il faut quand même savoir.
C'est toujours un 11 septembre. C'est
le 11 septembre est quand même une date importante, malgré que la dernière est fortement malheureuse. Mmh. Mais là, le 11 septembre 1974, un nouveau groupe est né.
Voilà, donc on parle d'un groupe en français, c'est les Étrangleurs, donc c'est pas très engageant. Non, c'est les Stranglers, un groupe qui s'est monté avec quatre personnalités très disparates. Alors on va plutôt parler de la légende, de ce que retient l'histoire de ce groupe au niveau de ses personnages. Le premier, c'est le clavier, Dave Greenfield.
Et qui lui est arrivé, je crois, en juillet 75.
Oui, c'est ça, un petit peu.
C'est-à-dire qu'ils ont déposé le nom des Stranglers en 74, et le groupe a réellement pris toute sa dimension en juillet 75, voilà. Avec l'arrivée du clavier, quoi.
Exactement, c'est là qu'il y a eu on va dire que la quintessence des Stranglers est née. Là, les Stranglers utilisaient un clavier dans un groupe plutôt de mouvance punk. C'était vraiment révolutionnaire. Bah, ils sont arrivés en plein 75, 76.
Bah oui, c'est pour ça. C'est
premier album en 76 d'ailleurs.
Le 23 octobre 76, les Stranglers commencent à jouer dans une salle qui est l'Hammersmith Odéon.
T'en connais des choses, t'as un papier sous les yeux ou
Ouais, je reconnais, je m'aide un peu. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'ils jouent en première partie de Patti Smith.
Patti Smith, bon, ouais. Bah, c'est une grande prêtresse de la mouvance, on va dire presque. Post-new punk de l'époque.
Je pense qu'on fera plus tard une émission sur elle parce qu'il y a vraiment de quoi. Il y a vraiment matière.
Peut-être même deux. Ouais. Parce que ça revient en plus en ce moment, Patti Smith. Oui. C'est assez étonnant, ce parcours qu'elle fait dans l'histoire.
Et donc, en fait, donc là, nous sommes le 23 octobre 76, donc là, c'est leur premier concert en première partie. Mais en fait, les Stranglers commencent réellement à démarrer le 6 décembre 76.
Oui, alors là, c'est le premier album des Stranglers. Alors, je vais peut-être le dire très bien ou très mal. C'est Ratus Norvegicus. Alors, est-ce que c'est du latin? Est-ce que c'est de l'anglais? Est-ce que c'est du je sais pas quoi?
Mais alors, juste Patrick, tu me parles effectivement du premier album, mais les Stranglers viennent d'où? Parce que ce mouvement musical... non, parce que c'est pour quand même raconter un peu les Stranglers.
L'origine du groupe.
L'origine du groupe, voilà.
C'est vrai que Dave Greenfield, qui était le clavier, qui faisait partie du groupe, il y a Hugh Cornwell qui est à la voix, il y a Jet Black, qui est sans doute un nom d'emprunt, qui est à la batterie, qui tape comme un malade.
Comme un sourd, ouais.
Mais qui joue comme une bête. Et il y a Jean-Jacques Burnel, qui a un nom bien français, on en parlera un petit peu tout à l'heure.
Ouais, je crois qu'il y a une bonne anecdote là-dessus.
Ah, bah, c'est
on en parle tout à l'heure.
On va regarder ça tout à l'heure.
Ouais.
Ou alors on fait un jeu, mais c'est pas trop l'idée de l'émission. Mais Jean-Jacques Burnel, il y a des choses à raconter sur lui, effectivement. Donc c'est un groupe qui s'inspire, je le répète, avec Dave Greenfield au clavier. On peut dire plus de la mouvance Doors, qui a vraiment été empreint de ça, qui a été imprégné par les morceaux de Doors. D'ailleurs, on verra dans les années 90, ils feront des reprises des Doors.
Je pense que ça fera l'objet, je pense, d'une future émission
dessus,
parce que je crois que les Stranglers, il y a vraiment un moment, on peut en raconter des heures et des heures. Quoi.
On a prévu 23 émissions, je crois.
Oui, c'est ça, oui. Je pense que le programmateur va s'arracher un peu les cheveux. Ouais.
Voilà.
Donc là, pour recadrer, on va dire, un petit peu l'émission, donc on est le 10 décembre 76, les Stranglers, effectivement, jouent à Londres, au Nashville, et enregistrent le concert dans l'idée l'idée d'en faire effectivement leur premier album en live.
Voilà, un premier album live. C'est...
Sauf que
ça se fait pas.
Et ben voilà. Et ça, c'est étonnant, quoi.
Ouais, ouais.
Parce que les Stranglers vont commencer réellement à faire un enregistrement studio au TW. C'est dur, faut pas oublier, chers auditeurs, que mon anglicisme est franchement moyen. Donc, en fait, en janvier, février 77, les Stranglers sont en studio au TW de Furham pour enregistrer effectivement le fameux album Ratus Norvegicus.
Oui.
Évidemment, on va quand même commencer à écouter un premier morceau. Alors, on va pas faire écouter le premier morceau du premier album, parce que je pense que, sans vouloir t'offenser, mon cher Patrick, c'est peut-être pas le premier album qui est le plus connu.
C'est pas le plus connu, que j'aimerais bien, ça te dérange pas, c'est qu'on écoute un extrait au moins, pour qu'on comprenne l'ambiance musicale de ce
D'accord.
premier album, qui est un titre, pour moi tous les titres forcément sont intéressants, mais c'est le premier du premier album, ça s'appelle Sometimes, et ça donne un petit peu l'ambiance. On écoute ça une petite minute et vous verrez l'ambiance de ce premier album.
Patrick, le morceau, ouais, c'est étonnant. Hein. Moi, je découvre les Stranglers. C'est déjà une bonne mise en bouche.
Ouais, c'est du bon rock'n'roll, ça tape bien.
C'est clair.
Hein. Alors, je disais tout à l'heure que je voulais dire un petit mot sur la pochette. Donc, comme on est à la radio, c'est absolument pas approprié.
Sauf que c'est marrant. Excuse-moi de te couper.
Oui.
Mais quand je regarde au dos du CD, parce que maintenant on peut quand même retrouver effectivement toute l'œuvre complète des 15 albums des Stranglers.
J'aime bien quand tu dis l'œuvre.
L'œuvre, bah oui, allez. Des Stranglers, il faut quand même savoir qu'ils ont sorti quand même à peu près 15 albums. Enfin, pas à peu près, ils ont sorti 15 albums. Et effectivement, le premier album, au dos de la pochette, on retrouve ce fameux symbole qui est un ciel totalement rouge avec un soleil jaune et un rat qui marche à l'horizon. Et ça, je pense que c'est tout l'emblème des Stranglers.
Ça a été utilisé après. Ça revient d'ailleurs à la mode. Ça a été beaucoup utilisé sur des badges. C'était pas des pins à l'époque, c'était des badges. Et maintenant, vous en revoyez beaucoup. D'ailleurs, il y a des badges...
Des comptoirs du rock.
Des comptoirs du rock. On va pas faire d'autres pubs.
Non. Mais c'est vrai qu'il y a des badges du comptoir du rock.
Voilà.
Si vous voulez,
donc, les badges reviennent à la mode. Et c'était à l'époque des années 70-80. Tout le monde avait son petit badge sur la boutonnière. Et le badge avec, si vous l'avez d'époque, gardez-le, il a beaucoup de valeur, avec le rat des Stranglers, c'était l'emblème du groupe. Donc ça vous donne un petit peu l'ambiance, un rat, les Stranglers, les étrangleurs. Donc je reviens enfin sur la pochette du CD, enfin de l'album. Là on voit nos quatre protagonistes en train de poser devant une maison, enfin à l'intérieur d'une maison, dans une grande pièce. Et il y a toute une légende sur cette pochette qui veut que cette pochette raconte un petit peu les albums suivants.
Ah oui, ils avaient déjà anticipé un peu l'avenir des Stranglers.
On va dire que c'est la légende, mais c'est toujours beau les légendes.
C'est peut-être un peu facile de voir ça 30 ans après.
Le côté un petit peu mythique. Je pense qu'ils ne savaient pas à l'époque que 15 ans après, ils allaient sortir tel type d'album. Toujours est-il qu'on retrouve des indices sur les futurs albums des Stranglers. Sur des objets, sur des postures, sur des attitudes qui font que cet premier album réellement annonce le départ d'une grande carrière et d'une grande aventure musicale.
Alors effectivement, là je rebondis sur ce que tu dis. Donc en fait, pour résumer en quelques dates, le 15 avril 77, sortie du premier 33 tours de l'album Ratus Norvegicus.
Voilà.
Et en mai 77, débute tout un long périple de concerts, et c'est le Ratus tour.
Voilà, c'est des bêtes de scène, hein. faut se le dire. C'est des groupes à l'époque qui. C'est plus des groupes de scène que des groupes de studio.
Bah, c'était un petit peu aussi l'époque voilà. Qui voulait ça, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'en juillet 77, les Stranglers se retournent de nouveau au studio voilà. TW pour enregistrer les titres qui viendront compléter leur deuxième album. Et en septembre 77, le 16 septembre 77, donc il s'est quand même passé entre le départ des Stranglers trois ans,
voilà, ouais.
Quasiment trois ans jour pour jour, où là ils vont nous sortir effectivement leur deuxième album 33 tours qui s'appelle No More Heroes.
Alors là, quel album ?
C'est vrai ?
Quel album ? Enfin, c'est tout. Ce que disent, bon, moi je suis le fan, mais ce que il y a beaucoup de bouquins, vous savez, qui sortent avec les 100 albums à voir dans sa discothèque idéale, etc. Ce deuxième album qui s'appelle No More Heroes en fait partie.
Et je pense que No More Heroes c'est aussi le titre d'une chanson voilà, de l'album. Voilà. On va peut-être déjà l'écouter. Allez. Effectivement, Patrick, t'avais raison. No More Heroes, c'est vraiment sublime.
Donc, tu vois, ça dit quelque chose, hein, une fois.
Voilà, effectivement, oui, non, mais tout à fait. En fait, on connaît la musique sans peut-être spécialement arriver à porter le nom d'un groupe dessus. Alors, c'est par contre ce qui est étonnant pour la petite anecdote. Toujours, on est toujours le 16 septembre 77.
Ouais.
Et tu sais que ils ont sorti leur second album, donc No More Heroes, le titre phare qu'on vient d'écouter. Mais ils ont sorti en même temps, le même jour, l'album et le single. Le même jour, pour l'instant, ça tout a démarré effectivement en Grande-Bretagne. Donc, ils ont sorti les deux en même temps. Et ça a poussé un peu. Quelques jours plus tard, le 23 septembre 77, là, les Stranglers entament le No More Heroes Tour.
Voilà, c'est bon,
explique-nous un petit peu pourquoi, le No More.
Déjà, c'est le titre de l'album, No More Heroes. Je ne sais pas si vous êtes angliciste, mais quand vous écoutez les paroles de cette chanson... on retrouve un petit peu ce qu'on disait la semaine dernière ou les semaines précédentes, je sais plus, sur les clashs. On est dans cette ambiance 76-77, c'est l'époque punk. Bien que les Stranglers n'aient jamais voulu adhérer à cette mouvance.
Ils se revendiquent pas non plus spécialement punk ni rock, c'est un mouvement musical.
Voilà, un petit peu.
Sans étiquette. Quoi.
Voilà, c'est un peu comme tout le monde qui se trouve un petit peu à part dans une société. C'est ce groupe qui a découvert sa ligne musicale et qui se découvre des envies, des passions et un univers qui va surtout, je pense qu'on va parler du prochain album.
Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans la continuité, le 3 et le 6 novembre 77, là, les Stranglers se donnent 4 très grands concerts de suite. Ils pouvaient se faire connaître qu'à travers la scène. Et ils ont fait ça au Roundhouse de Londres, ce qui était quand même une salle, je pense, relativement mythique pour l'époque. Et le 22 novembre 77, les Stranglers jouent au Hope and the Onshore pour l'ouverture du Front Row Festival.
Yeah.
Et là, à mon avis, c'était relativement rock'n'roll.
I've seen you somewhere around the corner. Haven't I seen
Et là, on continue un petit peu plus dans le temps. Oui. On va passer 6 mois. On arrive aux alentours du 16 mars 78. Là, c'est le début de la première tournée américaine parce qu'ils font partie des groupes qui ont conçu quitter l'Angleterre, contrairement aux Clash qui sont restés essentiellement sur le territoire anglais. Après, effectivement, il y a eu une renommée américaine,
mais
européenne.
Plutôt dans un second temps.
Mais là, les Stranglers, peu de temps après leur grand succès en Angleterre, en 78, sont partis débuter leur première tournée américaine, 13 dates. Et déjà, pareil, c'était énorme, quoi. Donc, ils ont continué ça. Le 12 mai 78, ils sortent le troisième album.
Voilà.
Et là, le troisième album.
Alors, c'est tous mes préférés, forcément, sauf, on va dire, la dernière période, et je vous expliquerai pourquoi dans la deuxième émission, parce qu'on ne vous l'a peut-être pas dit au début de l'émission, mais si on vous l'a dit, je ne sais plus, on ferait ça en deux fois ou trois fois.
Je pense qu'il y a matière à en faire plusieurs émissions, quinze albums, il y a de quoi faire.
Il y a matière. Donc, le troisième album, qui s'appelle Black and White.
Ce qui est étonnant, c'est quand même une chanson de Michael Jackson.
Voilà, oui, mais.
Mais ça n'a rien à
voir. Là, on était bien avant. Depuis justement l'année.
C'est en 78.
Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est sur deux ans, trois albums. Et trois albums qui forgent vraiment l'identité du groupe. Donc Black and White, je vous raconte aussi un petit peu la pochette, parce que je trouve que c'est toujours intéressant pour voir un petit peu la musique qu'il y a derrière. Donc c'est nos quatre personnages qui sont forcément habillés en noir sur un fond blanc avec le chanteur Hugh Cornwell qui a la tête baissée. Ça signifie tout simplement qu'il veut pas qu'on le reconnaisse et que sa tête n'est pas importante, mais c'est plutôt sa musique forcément.
Sa musique, voilà. C'est l'identité du groupe. C'est une identité. C'est pas le groupe ne tient pas que sur un personnage, quoi.
Et ce qui est toujours étonnant, c'est en premier plan on a le batteur, alors que c'est très rarement qu'on a le batteur en premier plan. Donc on a notre Jet Black. La légende dit que c'était un ancien bûcheron au Canada. J'y crois peu, mais je la trouve assez rigolote, cette légende.
Alors, pendant que tu parles un petit peu de légende et tout au niveau du groupe, donc, pour résumer un petit peu, les Stranglers, c'est 4 personnes. Et il me semble avoir entendu dire, alors, c'est un peu facile parce que tu me l'as raconté, étonnamment, les Stranglers, qui est quand même un groupe mythique, qui vient d'Angleterre, eh ben, il y a un Français dedans.
Eh oui.
Un bassiste, si je me trompe, c'est ça
bah,
un bassiste.
C'est Jean-Jacques.
Jean-Jacques, et il vient de Caen.
La légende, toujours, dit qu'il viendrait du Chemin Vert ou de Mondeville.
C'est vrai. Mais est-ce qu'on en est sûr, en fait?
Moi, j'en suis sûr dans mes souvenirs. Voilà.
D'accord. Donc, on aurait quand même un grand personnage de Caen.
Voilà, qui
a marqué l'histoire du rock.
Voilà, exactement. Alors, c'est vrai, il parle français. Quand il répondait aux interviews... En France, il répondait en français avec un accent anglais à couper.
C'était peut-être l'histoire de faire un peu tendance. Mais, quoi.
Non, c'est un bassiste qui viendrait de la région, qui est ceinture noire de karaté, pour l'anecdote.
C'est vrai ?
Oui.
Ah, excellent.
Ceinture noire de karaté. Alors, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir en DVD, parce qu'il y a des DVD de leurs concerts qu'ils ont sortis, mais c'était un personnage quand il joue de la basse. D'une façon un petit peu...
Il joue quand même pas en kimono, quand même.
Il joue pas en kimono, mais je sais pas comment ça s'appelle, mais il fait des prises de karaté quand il joue de la basse.
C'est vrai ?
Avec la jambe levée à l'équerre, à 90 degrés, c'est très spectaculaire. D'ailleurs, je pourrais raconter une anecdote sur un concert qui s'est passé à Caen. Je peux le faire maintenant. Le concert des Stranglers s'est déroulé bien. On était au Palais des Congrès, mais on était au Centre Expo.
À Caen Expo maintenant,
à Caen Expo, là,
là
ça, ouais. Bon, il y avait 2-3 000 personnes. Et à un moment donné, bon, le concert se passait bien. C'était très, très Stranglers, très, très rock'n'roll.
Tu l'as bien vécu quand même, les Stranglers,
à
l'époque.
Oui.
On sent qu'il y a du vécu derrière.
Oui, je fais partie du fan, des fans. J'étais abonné à leur revue. Enfin, la totale, quoi.
La totale, ouais.
Et à un moment donné, alors que le concert se passe très bien, qu'est-ce qui se passe? Le concert s'arrête d'un seul coup, en plein milieu d'un morceau. Et là, on a notre ami Jean-Jacques Brunel qui saute de scène, qui va dans la foule, et qui course après un énergumène qui le traitait de tous les noms devant la scène, pour lui donner 2-3 prises de karaté. Il est remonté après sur scène.
Parmi les 2000 personnes, 2000 ou 3000 personnes.
Voilà, c'est ça l'esprit aussi des Stranglers.
C'est extraordinaire. Voilà,
il est remonté sur scène, et je sais plus s'ils ont pris le morceau en cours ou s'ils ont recommencé un autre morceau. Mais voilà l'esprit. Je sais qui a été tabassé.
Tu sais que tu connais les noms ?
Oui, je le connais même maintenant. Je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps.
On va quand même pas citer de nom, on va le laisser quand même anonymement.
C'est pas l'idée. Mais sauf que c'était quelqu'un à l'époque qui faisait de la musique dans un groupe de Caen, qui était assez connu. Voilà, j'en dirai pas plus.
C'est vrai.
qui était chanteur.
Qui faisait partie.
Et qui faisait de la guitare.
Est-ce qu'il faisait partie de l'album Les 13 à Caen ?
Oui.
Alors,
j'en dirai pas plus.
Juste pour information, je pense que dans une émission future, nous parlerons aussi des 13 à Caen. Alors, les 13 à Caen, oui. C'est juste une petite aparté. C'était 13 groupes de rock cannés. Il y a eu un disque vinyle qui est sorti dans les années 80.
Ouais, je sais plus trop, 82, 83.
Ouais, enfin, faut qu'on regarde dans la discographie. On en parlera dans une prochaine émission. On fera vraiment une émission sur les 13 à Caen parce que c'est bourré d'anecdotes.
Plusieurs, parce qu'il y a eu deux albums effectivement de sortie.
Voilà, et il y a beaucoup d'anecdotes très intéressantes qu'on, je pense qu'on pourra dévoiler avec l'autorisation de tous les auteurs.
Ouais,
Donc revenons sur les Stranglers. Donc là, effectivement, sorti en 78, le 12 mai 78 de l'album Black and White.
Ouais, alors,
qui est le troisième album.
Alors, excuse-moi Philippe, mais...
On va peut-être écouter un morceau quand même de cet album-là.
Mais de l'album Black and White, voilà, ouais.
Lequel morceau tu veux qu'on écoute ?
Toller of the Sea, peut-être.
Ok. Ouais, eh ben écoute, on va écouter Toller of the Sea.
Ou un autre, mais...
Non, mais reste sur celui-là, c'est premier choisi. Allez, Toller of the Sea, les Stranglers.
Our steps, rebuild the world.
German ship. I took her back up north. I lost her in the fog. I was a toiler on the sea. 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 I was a toiler. I was a toiler. I was a toiler on the sea. On the sea. I was a toiler. I was a toiler on the sea. I was a toiler. A toiler. A toiler. A toiler. A toiler.
Bah écoute, et bon choix, hein. Bon choix. Moi, je pense qu'on a quand même une émission qui est bien, bien rock'n'roll et bien rythmée. On va continuer un petit peu. Donc, nous avons quitté le 16 septembre. Nous avons quitté le 16 septembre 78 et nous allons faire un petit bond au 9 février 79. Là, c'est le début de la première partie des Stranglers au Japon.
Et oui.
Après l'Angleterre, les États-Unis, le Japon. Donc, c'est vraiment la tournée mondiale. Suivie par une tournée australienne au pays des kangourous. Mais là, c'était plus en février, oui, fin février, début mars. Alors, on revient toujours sur février, le 20, parce que l'émission vraiment va être basée sur des dates clés, ouais, vraiment bien précises. Ouais. Il y a eu le 23 février 79, le premier album live des Stranglers. Et là, ça a aussi marqué son temps. L'album s'appelle Live X, certes.
Qui était introuvable en France à l'époque en vinyle.
Ah oui.
Et trouvé en Angleterre simplement avec beaucoup de mal.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que effectivement, cet album-là est sorti par la maison de disques avec laquelle ils avaient signé auparavant, au tout départ, avec effectivement la maison de disques, c'était United Artists, et c'était un peu à leur insu parce qu'ils étaient encore au Japon,
ouais,
étonnamment. Et effectivement, le 15 avril 79, Jean-Jacques Burnel, notre fameux canet.
Voilà.
Entre parenthèses, parce que nous n'en sommes pas vraiment sûrs, mais en tout cas, ça nous fait plaisir, eh ben, décide de quitter le groupe. Alors, peut-être temporairement, nous serons plus tard, mais entame une tournée solo de 2 semaines à l'occasion de la sortie de son album solo, Euromen Comment. Et là, merci Patrick de me le faire voir, super, avec une, on va dire, si je ne me trompe pas, on dirait la photo de Beaubourg.
C'est Beaubourg,
c'est d'accord.
C'est Beaubourg.
Donc ça, c'est l'album solo de Jean-Jacques Burnel. Qu'est-ce que tu en penses de cet album-là ?
Solo, oui et non, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais au clavier, qui retrouve au clavier ?
Eh bien, notre ami Dave Greenfield.
Donc on va dire que c'est un album de la moitié de Stranglers.
Mais alors pourquoi ?
Bon, c'est une envie, je pense comme beaucoup, de sortir à un moment donné du groupe et d'explorer son univers musical personnel.
Ouais, mais enfin bon, ça fait que 5 ans qu'ils sont formés.
Oui, mais tu as vu au tout début, ils ont fait beaucoup de concerts. C'est un
groupe, voilà, il y a une certaine lassitude, chacun a envie un peu de reprendre le pas individuellement, de donner leur patte musicale.
On dit en France que tout comprendre, c'est tout pardonner. Et peut-être que c'est vrai, mais je pense que c'est gaspiller la vie d'oublier. Faut jamais oublier. The tears and
tout dire, c'est un album qui n'a pas du tout marché. C'est un album pour fans. Il y a 2-3 titres intéressants. sur le fond, notre Jean-Jacques, il est bien mieux avec les Stranglers que tout seul. Voilà.
Ceci étant, bon voilà, une petite tournée de 2 semaines, ça fait pas de mal. Stranglers arrive en France, enfin en France. Oui. Après l'Angleterre, les États-Unis, le Japon, l'Australie, ils arrivent en France en 79. Et là, ils nous font un enregistrement dans les studios parisiens d'un nouvel album, The Ravens.
Sur la pochette de The Raven, bien sûr, on trouve un corbeau qui nous regarde fièrement. Et on retrouve aussi à l'arrière de la pochette nos 4 étrangleurs habillés bien sûr en noir.
C'est marrant parce que quand on regarde un petit peu ça, on a l'impression qu'ils sont partis dans un trip un peu gothique au niveau.
Il y a un peu de ça exactement. C'est
le côté vachement noir, le côté un peu gothique, même dans la typo du nom de l'album The Ravens.
Ça préfigure d'ailleurs l'album qui va suivre, dont on va parler.
D'accord. Donc ils anticipent vraiment les choses. Hein.
Ouais, Alors The Raven, c'est que des titres que j'adore, mais on va écouter le titre de l'album, The Raven, qui est le numéro 2 sur le CD ou sur l'album, qui résume bien un petit peu l'ambiance de ce qu'on retrouve sur ce CD.
Ok.
Voilà, on vient d'écouter le morceau The Raven. C'est peut-être le dernier de l'émission, parce qu'on est à l'émission numéro 1 des Stranglers.
Voilà, donc nous sommes fin 79, voilà. Et les Stranglers continuent encore.
Voilà, donc on est en 2006 aujourd'hui, les Stranglers sont toujours vivants. Voilà, on a fait que 5 ans de la vie des Stranglers en je sais pas combien de temps, mais en pas mal de temps.
Bah
déjà.
Écoute, ça fera peut-être l'objet d'une autre émission pour la suite des Stranglers.
Là, on est obligé, là.
Là, on est obligé, hein, je crois. Merci Patrick.
Merci Philippe, à plus.
Voilà, c'était les Comptoirs du Rock. À bientôt.
À bientôt, salut.